ils n'ont pas besoin d'avoir une subvention. Loufana Bregou, 1000 euros. Au fil de l'art, ne demande pas de subvention. La pétanque ne demande pas de subvention cette année. Repère Café, qui vient de créer une association à part entière pour les activités donc, du samedi au foyer, a demandé une subvention pour les aider pour la création donc, de cette association. Donc 350 euros. SOS Les Environnements, 250 euros. Le Taekwondo, 1650 euros. Le tennis club, cette année, n'a pas demandé de subvention de fonctionnement et il compte demander une subvention exceptionnelle pour les tournois donc, qui arrivera prochainement. L'école de rugby du Pic Saint-Loup nous a demandé une petite participation. Il y a pas mal d'élèves de Montferrier. C'est une équipe de filles. Et donc, on a souhaité accéder à leur demande, à leur de tout le groupe de travail. Et après, nous passons aux subventions exceptionnelles. L'ACDUC demande 1000 euros pour l'organisation des punaises du Lez. Le foot, 3000 euros pour les tournois. Les équipiers solidaires qui vont réorganiser cette année la course qui a eu lieu au mois de décembre, c'était le 11 décembre, si mes souvenirs sont bons, demandent une subvention de 1000 euros. Et Zonta a donc repris son activité de course et marche cette année. Et donc, on a alloué une subvention de 450 euros. Ce qui fait un total pour les deux subventions, je n'ai pas fait, donc de 26 000. Donc, ce qui fait un reliquat non affecté de 6 840 euros qui permettra donc de répondre aux demandes de subventions exceptionnelles qui interviendront en cours d'année. Donc, c'est moi qui dois le dire, madame le maire. Donc, le conseil municipal donc, doit délibérer.
Afin de progresser dans la démarche entreprise depuis deux ans, quand même, ça a progressé par rapport à ce qui était au départ. Nous voudrions faire quelques remarques. La première remarque, c'est que le budget, bon, tu l'as indiqué, destiné aux associations est tombé depuis 2022 à 34 000 euros. Et c'est un budget qu'on peut trouver relativement faible. Donc, pour les associations, comparé notamment aux fêtes et cérémonies, il y a 80 000 euros. Nous demandons donc pour 2023, comme nous l'avions déjà demandé en 2022, que soit précisé, comme cela se fait d'ailleurs pour les associations, le détail des sommes destinées à chaque fête et cérémonie. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque... Elle se pose la question du montant des subventions octroyées à chaque association face aux dépenses occasionnées par chacune d'elles. Alors, certaines activités, le foot, le tennis, la pétanque, bientôt l'école de musique, mais d'autres également, comme les jardins partagés, occupent un local, voire plusieurs salles pour elles seules, et parfois des terrains pour leurs activités. Nous avons noté tout à l'heure, lors du budget, que les dépenses liées à l'éclairage, au chauffage, à l'eau sont importantes et ont fortement augmenté. Pourrions-nous d'ailleurs les connaître? Au moins la somme de chaque poste ou électricité pour l'ensemble des bâtiments et terrains appartenant à la commune, ou de manière plus précise pour chaque association, quand cela est possible. En ces temps d'inflation forte, d'augmentation importante liée au coût de l'énergie, de pénurie d'eau liée à la sécheresse, ne serait-il pas opportun de responsabiliser les adhérents et responsables d'associations? Comment? Alors, bien sûr, la première solution pourrait être de faire payer à chaque association intégralement les frais, mais cela paraît peut-être difficile. Quoique, on peut installer des compteurs particuliers dans chaque salle ou dans chaque etc. Ça coûte pas très cher. La deuxième pourrait être de les faire participer aux frais, si cela est possible. Participation. Troisième, à minima, il serait bien aussi de les sensibiliser à ces problèmes, en les informant sur les coûts réels payés par la mairie et en leur indiquant que, si ces frais augmentent trop, les associations pourraient être mises à contribution. D'autres solutions pour responsabiliser les membres de chaque association pourraient être proposées, et nous proposons dans ce cas que cela soit acté et discuté dans le groupe de travail sur les associations. Je trouve que certaines dépenses sont importantes, on l'a évoqué notamment lors d'une commission pour une association particulière, bon, je ne nommerai pas d'association ici, bien sûr, mais il me paraît important de responsabiliser, parce que tout n'est pas gratuit, tout a un coût, ces coûts augmentent fortement, et on ne voit pas pourquoi tout le monde paierait pour quelques personnes qui participent à quelques associations, etc. Donc je pense que ce serait plus juste, à mon avis, de faire payer ceux qui utilisent l'eau, ceux qui utilisent l'électricité, etc., et non pas, disons, toute la population, etc. Dernière remarque. La ventilation de subvention, on n'a pas fait l'objet d'explications, mais certaines propositions peuvent paraître tout à fait contestables. Par exemple, vous augmentez la subvention du foot, bon, c'est 7 000 euros plus 3 000 euros. D'ailleurs, subvention qui est absolument marginale par rapport aux autres subventions octroyées par ailleurs à ce club, ce qui, ne nous semble pas justifié, compte tenu que ce club ne recrute pas ou peu les jeunes de la commune. Deux, n'est pas justifié compte tenu des nuisances permanentes. Le week-end de Pâques a été un exemple flagrant. Et trois, pour être peut-être plus largement mieux utilisé en finançant des clubs qui animent le village et participent au vivre ensemble de la commune. Alors, dans cette dernière remarque, j'aimerais compléter pour ce qui concerne le paddle, parce que, bon, on aimerait bien connaître sur les revenus de ce paddle, puisqu'il y a eu des versements liquides, d'autres versements se font sur des comptes, etc. Et donc, voilà. On n'a toujours rien qui indique le financement et les rentrées, disons, pour ce paddle. Voilà.
Monsieur Bord, pour le paddle, Monsieur Bord, excusez-moi Christian, pour le paddle, on vous a dit, je ne sais pas le dernier conseil, parce que je n'étais pas là, mais un conseil avant, qu'on attendait de faire un an pour vous donner les revenus du paddle. Nous sommes en début avril et ça a été commencé en septembre. Donc on a dit, Monsieur Raymond vous l'a dit, en septembre, nous ferons un point sur ce qui a été reçu plutôt au niveau du paddle.
Alors, j'aimerais savoir comment se font les rentrées, disons, d'argent au paddle.
Juste une question, oui. Je te mets à l'aise, tu vas gagner du temps. Serge Blanc qui est là à peu près du matin 8h jusqu'à minuit du soir.
C'est qui Serge?
Ben voilà, c'est comme tu n'es pas allé souvent en paddle, je ne le connais pas, mais il est là 8h jusqu'à minuit. Il m'a dit, tu diras à M. Bord qu'il vient de nous voir, je lui expliquerai les rentrées et les sorties, comment ça se passe. Il peut même passer une journée avec moi, il sera le bienvenu, il verra mon amplitude horaire et comment on fait pour faire fonctionner le paddle. Donc je transmets sa demande, il m'a dit que tu pouvais passer une journée avec lui, tu verras les entrées, les sorties, ton investissement, et même une semaine, parce que je pense qu'il passe 60-70 heures par semaine et qu'il n'est pas rétribué à ce niveau-là. Heureusement que c'est un jeune retraité qui a fait une carrière footballistique et qui permet d'avoir du temps, mais il m'a dit de t'inviter cordialement. Comme ça, tu verras avec transparence tout ce qui s'y passe.
Mais c'est bien que ce soit une star qui s'occupe du paddle, mais la question de fond, c'est de savoir si la non-demande de financement du club de tennis est lié par ailleurs à des rentrées financières par exemple par le paddle ou s'il y a une autre raison.
La question à eux parce que c'est eux qui ont fait le choix de ne pas demander la subvention.
Ah oui.
Bah oui, mais vous devez bien avoir une idée qu'un club ne demande pas de subvention.
Peut-être que du club, on leur a laissé une année pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça leur a donné l'idée de dire pour l'instant on ne demande pas de subvention et on verra comment ça se passe.
simplement. Moi, ce qui m'interroge.
Vous avez traité tout simplement en lettres et ils n'ont pas voulu.
Ouais, c'est clair.
Ce qui m'interroge franchement et sans polémique, c'est que cette question, elle revient systématiquement sans ni l'un ni l'autre n'ayez posé un pied une fois au paddle. Ça me gêne vraiment.
Donc, c'est pas ça,
c'est toi qui le dis, c'est pas une question de star ou pas star. Traverse la route, va passer une journée avec. Regarde les gens ce qu'ils y font, regarde ce qu'ils s'y créent.
Ça n'a rien à voir.
Si, c'est important parce que là j'ai l'impression.
On parle de budget, on parle de financement.
J'ai l'impression qu'on met le doute, on met le doute
dans
la
gestion.
La question elle revient à chaque
fois. Ça n'a rien à voir. C'est toi qui parles de doute. Moi, nous ce qu'on aimerait savoir, c'est comment pour le club, on parle de financement.
S'il n'y a pas de problème, pourquoi vous n'indiquez pas la somme alors?
Mais parce
que nous on est dans à un instant T, il y a bien une somme.
Tu veux que je te dise?
Il doit bien y avoir à un moment donné des rentrées. Vous devez connaître aujourd'hui la rentrée d'argent qui s'est faite jusqu'à présent.
Il y a eu une assemblée générale.
Vous ne racontez pas des
comptes. Il y a eu une assemblée générale.
Enfin, il ne faut pas exagérer.
Il y a des entrées liquides qui ont été faites. Vous devez savoir combien d'entrées au moins liquides. Non, il ne faut pas exagérer. Ne prenez pas les gens pour des andouilles quand même.
Il s'agit dans la gestion du club. Il y a une assemblée générale. Lors de l'assemblée générale, le club il expose ses finances. Ils ont exposé leurs finances. Sur l'année précédente, ils l'exposeront l'année prochaine avec des rentrées d'argent pour le paddle, des rentrées pour le tournoi, des rentrées pour les licences. Il y a un compte rendu, c'est le bilan financier, c'est exposé très clairement. Après, moi, ce qui me gonfle, c'est qu'on n'ait jamais traversé la rue pour voir ce qui s'y passait et qu'on remette en doute des gens qui passent un temps énorme bénévolement et sans avoir jamais été leur rendre visite. Ça me gêne vraiment et je les défends parce que. Je trouve que ce qu'ils font, c'est bien, star ou pas star, c'est pas une histoire de star, mais si, parce que ça revient à chaque fois.
C'est une question financière, au final, de budget, c'est tout.
Pour 50 balles, ils ont
C'est bon.
En plus, je l'ai précisé la dernière fois, il y a un tableau avec, moi j'y passe tous les jours, 3-4 fois dans la semaine, je sais combien. La semaine dernière, il y en a eu 25, parce que, comme j'expliquais à un collègue tout à l'heure, à Castelnau, il y a une vitre qui a été cassée, donc tous les gens de Castelnau sont venus ici. Il y a eu 25 réservations, d'habitude, il y en a plutôt 15. Mais si tu passes voir le tableau, c'est affiché noir sur blanc. Si tu veux, tu peux même t'amuser à pointer, comme ça tu sauras au nombre près combien il y a eu de réservations par semaine. Le tableau, il est affiché, c'est pas compliqué. Y compris quand c'est réservé sur Internet, c'est affiché sur le tableau à l'entrée du tennis à droite. Mais faut-il encore y aller?
Et puis c'est des comptes du tennis, voilà. Pas les comptes de la commune.
Le tennis, un bilan financier, un bilan sportif, un bilan moral, on y est tous invités, et c'est à ce moment-là qu'ils exposent leurs comptes. On ne va pas aller voir, moi je passe le tennis tous les jours, je suis à la veille d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a dans la caisse, qu'est-ce qui est rentré. Je regarde parce que ça m'intéresse les réservations, je dis ça a marché cette semaine, ça n'a pas marché parce que ça m'intéresse, mais je ne vais pas demander ni au président ni au membre du club, mais attends, combien t'as gagné? Ça me paraît indécent. Comme ce week-end, je suis allé au tournoi de foot, j'ai décidé de ce qu'ils ont pu gagner, mais à la limite, ça ne me regarde pas. Ils vont faire un bilan financier à la fin, où ils exposeront ce qu'ils ont rentré, ce qu'ils ont sorti, d'accord? Et nous, on n'a pas à s'ingérer dans les comptes des associations.
Le paddle est un terrain public financé par le fonds public.
Oui, et puis c'est pour ça qu'il y a une assemblée générale. Donc, c'est qu'à l'assemblée générale.
C'est un devoir de demander.
Mais à l'assemblée générale, toutes les associations font un bilan financier. Et tu peux y assister. Incroyable.
C'est bon.
Puis, moi,
non, mais ça suffit.
Ça ressemble beaucoup. Moi, j'aimerais savoir.
C'est bon.
En début de speech, vous avez dit qu'il y avait une association qui consommait beaucoup. Vous vouliez perdre son nom. Après, vous avez parlé du foot, vous avez parlé du tennis.
Et puis, donc, pardon.
Dites-moi. Parce que je vais t'imaginer.
Et puis, juste une autre question. Dans ton intervention, tu dis qu'il n'y a pas assez de subventions pour les associations, mais après, tu veux leur faire payer l'électricité et l'eau. Donc, je ne comprends pas le sens de ton intervention.
Il y a une association qui a dépassé 6 000 euros pour l'eau.
Voilà. Ben, les jardins partagés, mais dites-le.
Alors, les jardins partagés, il aurait fallu participer à l'Assemblée générale qu'il y a eu il y a quelque temps. Michel, tu peux prendre la parole peut-être, parce que ce n'est pas la peine de discuter sans s'étendre sur des choses qui n'ont pas lieu de. Il faut quand même aussi s'occuper, il faut rentrer un peu dans les associations, il fallait les voir, il faut écouter. Vous parlez, vous discutez, vous arrivez et vous soupçonnez. Ça, c'est un cœur.
Alors, laissez-moi répondre, vous posez une question qui m'intéresse directement. Non, c'est faux, la somme de 6 000 euros est fausse. L'association Les Jardins Partagés a consommé l'année dernière 3 200 ou 3 500 euros d'eau.
qui est quand même une somme considérable, enfin importante. C'est d'ailleurs le plus gros consommateur d'eau en matière d'espace vert sur la commune. Donc la présidente en est bien consciente. Il y a eu un débat effectivement en Assemblée Générale sur ce sujet. Et la présidente s'engage à mettre en œuvre toute une politique de restriction, ou en tout cas de réduction de consommation d'eau, voire de perte de consommation d'eau sur les jardins partagés. Ouais.
Il y a deux compteurs posés, un sur l'alimentation de la ville et un sur l'alimentation du forage. On ne peut pas mieux faire.
On a eu cette discussion en commission.
Oui, exactement. Monsieur Bord, vous y étiez aussi. Les chiffres vous ont été présentés.
6 000 euros est apparu.
Non. Pas 6 000 euros, 3 500 euros en sonnant et trébuchant.
Je voulais juste revenir.
La confiance
aussi. Je voulais revenir aussi sur les nuisances du tournoi de foot. Ça s'est très très bien passé cette année. Alors on ne doit pas rencontrer les mêmes personnes. Il n'y a plus de musique. Ça, vous pouvez quand même le constater. Il n'y a plus une de musique au tournoi. Et même d'ailleurs les dimanches après-midi qui dérangeaient les voisins. Il n'y a plus de musique. Il y a eu 2000 personnes qui sont venues. C'est vrai, il y a eu 112 équipes qui venaient de partout, de toute la France, dont une qui est venue de Saint-Martin, qui était présente. C'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Moi, j'ai fait le tour après le tournoi. Je n'ai pas trouvé que l'endroit était sale. Il y avait des poubelles partout.
Les jeunes ont ramassé,
exactement, puisque moi je suis partie à la fin et les jeunes ramassaient les poubelles. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus tout le temps leur tomber dessus, parce que finalement, ce foot, ça occupe aussi les jeunes. Ça occupe aussi les jeunes. Mais pas de Montferrier, pas que de Montferrier. Non, pas. Il y en a de Montferrier. Il y en a 90 de Montferrier. Mais il y en a.
Il y a 60 bénévoles qui ont bossé.
Il y a 70 bénévoles même. 70 bénévoles qui ont bossé.
70 bénévoles.
Pendant 3 jours. Donc, bon, je pense que c'est une bonne ambiance à investir.
De Montferrier qui veulent jouer au ballon.
Il faut quoi ?
Il faut arrêter de rejeter les jeunes de Montferrier qui voudraient jouer au ballon.
Après, ça, c'est un autre débat.
Oui.
C'est un autre débat.
Bon, donc, bon, c'est bon. On va passer donc au vote. Pour donc toutes ces associations qui ont été... Il y a des questions ? Vous avez des questions ? Non. Donc, Eda, tu sors ?
Oui, elle sort.
Eda.
Oui, je sors.
Enfin, elle n'a pas peur de sortir. Hein. Je vu qu'elle participe au vote. Hein, c'est,
oui,
tout,
voilà.
Hein. C'est tout. C'est tout. Elle n'a pas besoin de sortir. C'est pas...
Madame Lagrifol, faisant partie du conseil d'administration de la CN, ne participe pas au vote.
Ah, mais attends, si, moi je fais partie du conseil de l'Aqueduc.
Mais bon, participe au vote.
Donc, mais je ne participerai pas. Mais Jean-Marie ne veut pas prendre part au vote même plus. Parce que son épouse est.
Eh oui, elle est un père café.
Donc nous sommes trois à ne pas participer au vote.
C'est bien, c'est bien.
Donc qui, noter, voilà. Donc qui est contre ces subventions accordées aux associations ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Trois personnes qui ne votent pas.
C'est pas des abstentions. Hein, ce sont des...
Non, qui ne votent pas. Qui ne votent pas.
Si, pas vote.
C'est toi qui fais le compte-rendu, Michel.
Alors, nous passons à la quatrième délibération. Alors, la quatrième délibération concerne la régie des festivités et la régie des services scolaires. Donc, ces deux régies ont subi l'été dernier, ont subi des vols en numéraire au sein de la mairie. Donc, dans ces deux régies, vous avez, je le répète, la régie des festivités pour une part et la régie gestion des services scolaires pour une autre part. La somme qui a été volée est une somme de 1 850 euros. Donc ça s'est passé durant l'été. Suite à ce vol, il y a eu plainte à la gendarmerie, il y a eu enquête de la part de la trésorerie pour essayer de comprendre tout ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, on n'a pas de, de retour, puisque on n'arrive pas à élucider ce qui s'est passé. Nous avons immédiatement changé toutes les serrures d'accès à la mairie. Donc les clés ont été donc distribuées avec parcimonie. Et aujourd'hui, toutes les portes d'accès sont fermées. C'est-à-dire que si quelqu'un vraiment s'introduit au niveau du hall d'accueil, il n'y a aucune possibilité pour lui de rentrer dans les autres pièces et les autres bureaux. Et voilà, donc je vous ai tout dit là-dessus. On n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. L'argent était prêt pour être déposé à la banque postale. Et au moment de le déposer, il n'y avait plus d'argent. Donc l'enveloppe complète a été prise avec tous les papiers renseignés, etc., etc. C'est pas, il n'y avait pas 500 euros qui traînaient dans un tiroir en numéraire. Donc voilà, c'était prêt à être déposé et ça a disparu.
Puis-je poser
deux
remarques ? Première remarque qui rejoint la remarque qui avait été faite au point 1. Donc on découvre maintenant qu'à l'été 2022, des événements sont passés. Et évidemment, on a à minima, on aurait pu être informé de ça avant d'attendre 8 mois pour avoir l'information. Donc c'est une fois de plus, Christian, tu nous fais des procès d'intention, mais là, une fois de plus, on est mis, on a l'information après des mois et des mois, voilà, donc c'est bien triste. Ma question, c'est est-ce qu'il y aurait un moyen d'investir dans un coffre pour pouvoir...
Nous avons un coffre. Nous avons un coffre, ça n'a pas été mis dans le coffre. Donc nous avons un coffre. Voilà. Ensuite, pourquoi vous n'avez pas été au courant ? Parce qu'il a fallu laisser l'enquête se mener. Et donc, on a eu le retour de la DGFiP uniquement en janvier. Uniquement en janvier.
Attendez, à partir de là, dans le conseil municipal, que l'enquête se fasse, voilà, qu'il y ait confidentialité autour de cette enquête, je l'entends bien, mais qu'on n'ait pas au moins un point d'information, c'est un peu... c'est dommage, voilà. C'est dommage, surtout que le bruit circulait dans le village. Donc, on apprend les choses après les habitants du village.
Michel ? Je voulais poser la même question, savoir... moi, je m'étonnais, bon, parce que tu as parlé des clés et des clés d'accès. Mais il me semblait quand même qu'il y avait encore...
On ne vous entend pas.
Je voulais poser la question.
Non, ça marche.
Voilà. Je voulais poser la question effectivement de savoir où l'argent était conservé puisque je m'étonnais qu'effectivement il ne soit pas en sécurité.
Donc il y a un coffre et il n'a pas été mis dans le coffre. Donc à partir du moment où il n'a pas été mis dans le coffre, il était bien caché, mais pas suffisamment caché, c'est-à-dire que je pense que la personne qui a pris cet argent savait très bien où il était. Ben, pour moi, hein, après... on peut supposer ça, parce que, bon, comment aller trouver cet argent qui était bien caché à l'endroit où il était caché ? Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une procédure qui est mise en place. C'est pour ça que nous avons décidé d'acheter des terminaux de paiement, pour qu'il n'y ait plus du tout d'espèces qui traînent au niveau de la mairie. Tout sera payé en carte bleue. Il y a le coffre-fort qui est sous la responsabilité... du régisseur. Et aujourd'hui, je vous demande cette remise gracieuse parce que je pense qu'il est très compliqué de demander au régisseur de payer cette somme-là, qui est une somme importante, et ensuite, qui refusera par la suite de rester régisseur, parce que c'est du volontariat, hein. C'est quelqu'un qui s'est proposé pour être régisseur. Donc à partir du moment où cette personne va se sentir accusée de vol et refus de remise gracieuse de la part de la mairie, avec tous les mois une somme à donner ou même à rembourser d'une seule traite, cette personne dira même, moi je suis plus régisseuse et puis terminé. Donc c'est pour ça que je vous propose de faire une remise gracieuse à cette personne qui assure la régie aujourd'hui au niveau de la mairie. De toute façon, la procédure est changée. Nous allons faire les choses complètement différemment. Et donc, à partir de là, on va souhaiter qu'il n'y ait plus de vol de ce type-là.
Juste une précision. La personne qui fait la régie n'est pas une bénévole.
Pas du tout. C'est une salariée de...
D'accord, elle le fait bénévolement, tu veux dire?
Voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a accepté d'être régisseur.
Oui, d'accord.
Elle a accepté d'être régisseur. Si demain, on lui dit, bon, ben, vous êtes responsable de cette somme-là, vous devez la payer, ce qui est plus que son salaire, elle va dire, bon, ben, c'est terminé, trouvez un autre régisseur. Et personne ne voudra être régisseur. Hein. Et les élus n'ont pas le droit d'être régisseurs. Voilà, donc ça m'a beaucoup interpellée, hein, je peux vous l'assurer. J'ai même pensé à un moment donné mettre une caméra. Je n'ai pas oublié d'ailleurs le fait de poser une caméra. Parce qu'à un moment donné, qui rentre dans la mairie et qui va fouiller dans des endroits, qui se permet ça? C'est pour ça que nous avons immédiatement changé toutes les serrures des deux portes, la porte principale et la petite porte accès mariage. Parce que c'était la même serrure, nous avons changé ces deux serrures, et nous avons donc toutes les clés qui... Parce que depuis 30 ans, les clés de la mairie, je pense qu'elles sont un petit peu partout dans la commune, hein, très certainement. Donc, on a changé les clés. Les clés, il y a une liste, il y a un nombre de clés qui a été distribué avec le nom des personnes qui ont signé. Donc là, à partir de là, voilà, on verra si on met une caméra ou pas. Donc je vous demande de bien vouloir voter et j'espère que vous allez aller dans le bon sens, c'est-à-dire de la remise gracieuse pour cet agent qui ne vit plus depuis des mois et des mois. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour l'agent. Alors, la dernière délibération, c'est la mise en place de la police métropolitaine au niveau, donc, métropole. Donc, la métropole a décidé de mettre en place une police intercommunale métropolitaine à partir du mois de septembre 2023. Donc, je vais vous rappeler quelques caractéristiques de notre métropole. Aujourd'hui, dans notre métropole, on a 4 lignes de tram et 41 lignes de bus. On aura bientôt la future ligne 5. On aura une extension de la ligne 1 jusqu'à la gare. Et on aura des bus tram ou bus à haut niveau de service. Sur la métropole, il y a 996 agents publics de la sécurité. Dans ces agents publics de la sécurité, on tient compte de la police municipale et des ASVP. On a 715 contrôleurs et conducteurs de la TAM. Il y a 996 caméras sur 15 communes de la métropole et 1575 caméras pour la TAM. 9 communes ont une police municipale non armée. La majeure partie des communes de la métropole ont une police municipale armée. 9 l'ont non armée, dont Montferré-sur-Lèze. 40% des événements qui ont lieu sur les lignes de transport de la métropole ont lieu entre 14h et 18h. 10% ont lieu sur la métropole et essentiellement à Castelnau et Saint-Jean-de-Védas. Et 90% des événements ont lieu sur Montpellier, la ville-centre. En revanche, on a eu moins 24% de crimes et délits à Montpellier et dans l'Hérault entre 2019 et 2020. Cela peut s'expliquer aussi par le Covid. Voilà. Donc, suite à l'arrivée de la nouvelle mandature à la métropole, le président a pris la décision de vouloir créer une police métropolitaine des transports, puisque, comme vous le savez, à partir de fin 2023, il y aura la gratuité des transports sur la métropole au niveau des trams. Donc, pour assurer cette sécurité à Montpellier, parce que c'est vrai que c'est un gros dossier au niveau de la métropole, l'insécurité, les incivilités surtout, au niveau des transports, le président a donc proposé en conférence des maires, puis en conseil de métropole, nous l'avons voté l'été dernier, la mise en place de cette police métropolitaine qui sera au niveau de tous les transports, mais essentiellement du tram, sur toutes les lignes de tram. Donc je vais vous donner quelques... Mais vous avez pu le lire dans la convention qu'on nous demande de signer, toutes les missions de cette PMT, donc Police Métropolitaine des Transports. Donc essentiellement rassurer les gens, en rassurant les gens en étant présents sur tous les transports, constater les infractions et les incivilités, bien entendu. Les infractions ne seront pas des infractions de non-paiement, hein, puisque à partir de la... Alors ça sera du non-paiement de septembre à décembre, et puis après, à partir de janvier 2024, il n'y aura plus de paiement à faire pour monter dans les trams, donc ça sera des infractions, des gens qui sont debout sur les sièges, ne respectent pas, enfin bon, voilà, toutes les incivilités qui peuvent exister. Surtout une présence pour soutenir aussi les personnels de la TAM, qui sont très souvent attaqués, hein, dans les bus, dans les trams aussi. Et cette police métropolitaine pourra intervenir aussi sur tous les grands événements et pourra, sur la demande du maire d'une des 30 communes en dehors de la ville-centre, pourra cette police métropolitaine intervenir sur un gros événement, par exemple le tournoi de foot de Pâques à Montferrier, 2000 personnes cette année, 5000 personnes l'année prochaine. Je pourrai demander à la ville-centre, l'intervention, l'aide en tous les cas de la police métropolitaine à Montferrier pour sécuriser au maximum l'événement. Ces agents de la police métropolitaine sont des agents qui vont intervenir 7 jours sur 7. Ils seront, on aura 42 agents dans cette police métropolitaine. Ils seront en tenue, ils seront armés et ils seront avec des maîtres chiens. Ils seront présents le lundi et le mardi de 10h du matin à 20h et du mercredi au samedi de 14h à minuit, il y aura un renforcement de la police. Il y aura, en plus de cette police métropolitaine qui sera à pied, on aura une patrouille qui sera embarquée, véhiculée et qui pourra aussi appuyer par appel, appuyer la police qui sera à pied dans les trams. La centralisation du poste de la PMT sera place Paul Bec, près de la gare, justement, puisque c'est à la gare qu'il y a l'échange des 4 lignes de tram essentiellement, et la gare attire toujours beaucoup de délinquance. Donc le poste de centralisation sera près de la gare. Et donc comment ils planifient cela? Donc de mars à septembre, à partir de mars et en avril, donc mars et avril, il y a eu et il y aura les délibérations dans les 31 communes. Alors, en votant cette convention de coordination que je vous propose à ce conseil municipal. Ensuite, il y aura la signature des maires au mois de mai, puis la validation et la signature du préfet et du procureur de la République fin mai, puis une délibération en conseil de métropole au mois de juin, avec la signature du président, durant l'été, réception des locaux et installation des équipements, et déploiement progressif des agents à partir de septembre. Voilà comment va s'organiser la police métropolitaine des transports. Donc aujourd'hui, vous avez pu lire cette convention. Cette convention est signée pour 3 ans, renouvelable par tacite reconduction. Après, on verra si au fur et à mesure de ces années-là, il y aura des améliorations à apporter. Et ça sera discuté en conférence des maires, puis en conseil de métropole, quand on en aura besoin. Voilà. Avez-vous des questions particulières ?
J'ai juste une question. Bon, j'ai lu attentivement la convention. Tu as répondu à une des questions sur la présence des policiers à des manifestations qu'on pouvait organiser. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est page 2, il dit, il y a un chapitre où il est question de chapitre global, c'est dans le préambule. Les agents de police municipale sont placés sous l'autorité des maires des communes signataires lorsqu'ils agissent sur leur territoire respectif, conformément aux missions et objectifs assignés. 4 paragraphes en dessous, il est indiqué que les agents de la police métropolitaine sont des fonctionnaires territoriaux placés sous l'autorité hiérarchique du président de l'établissement public de coopération intercommunale, à savoir le président de Montpellier Méditerranée Métropole. Du coup, je ne comprends pas, imaginons un policier qui va faire la ligne de tram de l'Aveyrune
jusqu'à Clapier, va se retrouver successivement sous la responsabilité de quatre maires.
C'est quand il est dans la police métropolitaine des transports, c'est-à-dire dans tous les transports, il est sous le président. C'est le président qui gère. Quand le maire d'une commune va demander à l'EPCI que l'EPCI nous envoie des policiers municipaux pour nous aider sur un événement particulier, à ce moment-là, c'est le maire de la commune qui demande, qui sera le responsable.
D'accord.
Voilà. Donc, la PMT qui sera sur la ligne La Vérune-Clapier sera sous le président. Exactement.
D'accord.
Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre cette convention ? Ah, pardon. Je croyais que tu voulais poser une question. Excuse-moi. Alors, qui est contre ? Une personne contre. Alors, Bélib.
Tu peux l'expliquer ?
Oui, je suis contre la police métropolitaine des transports. Je suis contre la police métropolitaine des transports, donc je ne vais pas voter pour la convention.
Ah, d'accord, tu es contre
la police. Contre la police métropolitaine, l'ensemble. D'accord. L'idée de créer une police métropolitaine, c'est ça ?
Le fait qu'on utilise encore l'argent des contribuables de la métropole pour au final quelque chose qui, à mon avis, ne va servir que la métropole, enfin Montpellier.
Oui, 90%.
On aura aussi quand même de la sécurité au niveau des lignes de tram. Alors nous, on sera peut-être moins concernés parce que ça sera peut-être une ligne de tram moins utilisée. Et à Jacou, par exemple, je discutais avec le maire de Jacou qui disait que depuis qu'il avait eu la ligne 2, au terminal de la ligne 2 dans Jacou, la délinquance avait explosé. Donc là, la ligne 5 qui va aller jusqu'à la Vérune, peut-être qu'à la Vérune, enfin, juste avant la Vérune, peut-être que là, il y aura une explosion de la délinquance. Donc c'est pour peut-être un peu aussi diminuer la délinquance dans les communes.
Mais enfin, après, on a déjà échangé sur ça. Tu connais mon avis sur la ligne de tram qui arrive à Montferriot.
On peut dire aussi, Steve, que...
On peut dire quand même que quand on prend le tram, c'est la sécurité des gens qui prennent le tram dont il est question. Moi, quand je prends le tram, c'est pour rester sur Montferrier. Pour l'instant, il n'y a pas le tram Montferrier. Mais c'est pour traverser la ville de Montpellier, y aller, ou éventuellement aller sur l'Alpe, Pérole ou autre. Donc, que la métropole s'occupe de ma sécurité quand je suis sur la ligne de tram, même si c'est sur la commune de Montpellier, je trouve ça normal.
C'est vrai que c'est la majorité sur Montpellier.
Oui, mais
on va tous sur
Si on veut favoriser le tram et si on veut permettre à tout le monde de prendre le tram tranquillement et pouvoir se déplacer, puisque c'est l'objectif quand même de la métropole, c'est de pouvoir se déplacer au maximum par tram et non plus en voiture, prendre le tram en toute sécurité. Vous avez combien de gens autour de ce conseil qui prennent le tram en se disant rassurés dans le tram ? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup.
Ça va quand même. Moi,
non, mais Michel, tu es d'abord un homme.
C'est vrai.
Tu es un homme.
Ça, d'accord.
Je pense que les femmes sont déjà plus gênées. Et ensuite, ça dépend des heures. Si quand tu reprends, enfin moi, il m'est arrivé d'arriver à la gare Saint-Roch par un train à 22h30, prendre le tram à la gare à 22h30, tu n'es pas très rassuré parce que c'est vrai que dans le tram, il y a une population de la nuit qui prend le tram, qui descend un arrêt plus loin avec les chiens, etc. On n'est pas très rassuré. Moi, je trouve que l'idée d'avoir ces policiers, ça me rassurera quelque part. Je me dirais, il y a peut-être la possibilité d'avoir quelqu'un qui réagira au moment où...
Moi, je suis d'accord avec toi. Et puis, par rapport à la remarque de Steve, quand même, nous participons tous par nos impôts au paiement d'une police nationale ou d'une gendarmerie dont on ne se sert pas. Enfin, déjà sur la commune de Montferrier, sur laquelle on n'est pas vraiment intéressé dans la mesure où on n'a pas quand même, nous, sur Montferrier, ce qui peut se passer à La Paillade, ou qui se passe dans des quartiers à Lyon ou à Villeurbanne, ou dans des quartiers de la périphérie de Paris. Et pourtant, on participe bien au fonctionnement et au financement de cette police-là.
On va pas confondre un fonctionnement étatique avec un fonctionnement d'un établissement local. Enfin, pour moi, c'est pas comparable. Et si je vais même plus loin, la question que Brigitte a posée, moi je vais la poser différemment. Autour de cette table, qui prend régulièrement le tram ?
Non, mais on ne va pas rentrer là-dedans.
Mais voilà.
Non, mais
on est un village moi, très peu concerné. Voilà, c'est mon avis. Il est partagé, il n'est pas partagé. J'ai le droit d'exprimer.
Ok, donc on reprend le vote. Alors, donc, qui est contre ?
On vote.
Non, c'est micro. Qui est contre, donc ? Un contre. Qui s'abstient ? Adopté à la majorité. Je vous remercie. Nous allons donc passer aux questions diverses. Il faudrait rendre le micro à M. Bord.
Oui. Première question concernant Bayerguez. Les habitants s'inquiètent. Madame le maire, l'un de nos administrés nous faisait part dans la presse des dommages causés par la mise à sens unique du pont du Lez aux habitants de la commune. Nous vous avions adressé alors une question orale et le problème subsiste. Cette situation met l'accent sur la gestion publique de la rive gauche du Lez. Cette gestion fait-elle l'objet d'un traitement acceptable ? En effet, les problèmes de déplacement ne sont pas les seuls qui caractérisent Bayerguez. Il n'est nullement nécessaire d'en faire l'inventaire, mais remarquons simplement que c'est la rive gauche qui accueille bon nombre de nuisances de la commune, la déchetterie, le délabrement du hameau et ses conséquences inquiétantes en termes de délinquance, la zone d'activité sale de Sainte-Julie, l'absence de traitement paysager, etc. Je n'évoquerai pas les projets annoncés qui relèvent plus du déplacement des problèmes que de leur résolution, avec le complexe sportif par exemple, et les manifestations de Pâques qui s'en est suivie dernièrement. Certes, la gestion de ces espaces incombe grandement à la métropole, mais ne serait-il pas de votre responsabilité d'intervenir auprès de ces instances pour donner une qualité de vie légitime à la population concernée ? Merci.
Alors, pour répondre au quartier de Bayerguez qui est défavorisé, d'après ce que vous avez l'air de dire, la déchetterie, certes, la déchetterie est là depuis 20 ans. Donc la déchetterie a toujours été là et elle a pu faire, comme vous avez pu le voir l'année dernière, l'objet d'une réfection totale avec, je pense qu'aujourd'hui la déchetterie est un peu plus propre que ce qu'elle était, plus sécurisée, voilà. Mais la déchetterie reste une déchetterie, hein, ça, et je n'y suis pour rien. 20 ans qu'elle est là, je suis désolée, je suis arrivée et j'ai pris ce qu'on m'a donné. La déchetterie est rive gauche du Lez. Ensuite, le hameau de Bayerguez. Le hameau de Bayerguez, depuis que je suis arrivée, j'ai fait fermer le hameau de Bayerguez. Il est entièrement, puisque vous vous promenez, M. Bord, vous avez pu le voir, il est entièrement, toutes les issues, vous avez des kérons qui bouchent les issues, puisque au début de notre mandat, il y a eu beaucoup, beaucoup de problématiques que Mme Martin-Velaine m'avait fait remonter. Et donc, suite à la remontée de Mme Martin-Velaine, j'ai demandé à faire condamner toutes les entrées du hameau depuis. C'est beaucoup plus calme et Mme Martin-Velaine ne me fait plus rien remonter. Après, le réaménagement, enfin la réhabilitation de ce hameau, c'est un problème patrimonial et financier qu'a la métropole sur lequel je ne peux rien faire. La métropole décide ou pas d'y mettre 3 millions d'euros. Moi, Mme de Joissel, maire de Montferrier, j'aurais beau taper du poing sur la table, si la métropole décide que les 3 millions d'euros, elle ne les mettra pas dans la réhabilitation du hameau ou qu'elle n'y mettra qu'un million et demi et que donc il faudra envisager autre chose, Mme de Joissel ne pourra rien y faire. Donc je mets la pression, j'interfère au niveau des architectes des bâtiments de France pour réduire leurs prétentions patrimoniales. J'interviens au niveau des vice-présidents pour mettre la pression, mais je mets la pression que je peux mettre, je ne peux pas aller au-delà. Donc aujourd'hui, le hameau de Bayerguez est, en tous les cas, il n'y a plus de problème de délinquance au niveau du hameau de Bayerguez. Il n'y a plus ces militaires qui venaient sans, enfin ces militaires, ces jeunes qui se mettaient avec des cagoules, etc. et qui venaient faire des entraînements militaires. Donc voilà. Après, le déplacement des terrains de foot, on n'y est pas, hein, puisqu'il faut attendre le PLUI, donc on n'y est pas du tout. Et ensuite, l'aménagement du rond-point de Besnard, c'est pareil. J'hérite de ce rond-point, qui est un rond-point qui se faisait il y a de très nombreuses années. C'était des tailles de rond-point. On faisait de très grands ronds-points. Aujourd'hui, on en est revenu. Et on va avoir justement une amélioration dans ce quartier rive gauche du Lez, puisque nous allons avoir l'aménagement de cette fameuse piste cyclable qui ira de Girac à Prades, qui passera donc au niveau de Caudalie et qui passera par le rond-point de Besnard. Ce rond-point va être diminué. On va avoir une piste cyclable qui va tourner autour du rond-point. Vous allez avoir un rond-point central, puis un anneau piste cyclable, et ensuite un aménagement de tous les trottoirs en véritable piste cyclable de Prades jusqu'à Girac. Donc on va avoir quelque chose de plus qualitatif. Ensuite, il y a notre fameux terrain communal sur lequel j'espère que les commissions vont pouvoir réfléchir et nous sortir un projet extraordinaire sur ce terrain communal. Voilà, au niveau de la rive gauche du Lez.
Excuse-moi, quel terrain communal?
Celui qui est en face de Caudalie, à côté de la déchetterie, sur lequel on devait faire 52 logements sociaux qui ont été refusés.
Alors, deuxième point, donc l'ancien jardin du presbytère qui semble être renommé depuis quelque temps place de la Canourgue. Cela n'a jamais été à l'ordre du jour d'un conseil municipal. Or, il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux rues et aux places publiques. Vous l'avez fait il y a quelque temps pour des noms d'oiseaux sur une rue. Voilà, donc vous connaissez la procédure. Le nom d'une rue est pris par arrêté municipal, mais l'arrêté est le résultat. Il fait suite à une décision du conseil municipal et lorsque le nom est voté, il est transmis au service des impôts pour le cadastre qui lui donne un code, le code Rivoli. Une fois fait, l'arrêté est remis à la préfecture et ensuite, ces nouvelles informations sont transmises aux différents concessionnaires, la Poste, EDF, France Télécom, le service des eaux et les services des secours. De cette nouvelle appellation.
Alors la place de la Canourgue n'a jamais été votée en conseil municipal, donc elle ne s'appelle pas place de la Canourgue. C'est le nom, ce nom-là est sorti suite à la mise en place du circuit patrimonial, qui est, donc l'équipe qui a travaillé sur le circuit patrimonial a travaillé sur tous les livres anciens, et à force de lire et de chercher, se sont rendus compte que cette place, à une époque, s'appelait place de la Canourgue. Donc, ils ont proposé qu'on l'appelle place de la Canourgue. Mais comme nous ne l'avons jamais voté en conseil municipal, il y a eu l'inauguration du circuit patrimonial et nous n'avons pas inauguré la place de la Canourgue. Donc, quand nous déciderons de l'appeler place de la Canourgue, nous le voterons en conseil municipal. Donc aujourd'hui, c'est la place à côté de la mairie, appelée la place des jardins du presbytère, mais bon, voilà. Donc elle ne s'appelle pas place de la Canourgue. C'est ce que tout le monde utilise, parce que depuis le circuit patrimonial, c'est vrai que les gens ont cherché et puis ont retrouvé place de la Canourgue.
C'est vrai que ça fait référence avec la
Mais oui.
C'est pas ce que disait Métropole en commun, là, le magazine de la Métropole, le en juin 2022, la municipalité crée un nouveau rendez-vous culturel chaque jeudi, etc. Une représentation sera présentée sur la place de la Canourgue à 8h30.
Oui, parce que
et notre... il faudra leur dire qu'il n'y a pas de place.
Pour l'instant, elle n'est pas véritablement nommée puisque ça n'a jamais été voté en conseil municipal. Alors c'est vrai que tout le monde l'appelle la place de la Canourgue depuis le circuit du patrimoine.
Je ne comprends pas le problème que ça pose, à part le problème de procédure.
C'est la procédure.
La procédure, c'est le conseil municipal qui doit décider du nom de la place.
Mais ça ne vous gêne pas si on l'appelle place de la Canourgue, on est gâte.
Non, c'est pas la place de la Canourgue,
non, mais si on l'appelle après place de la Canourgue, ça ne vous gêne pas. Vous ne seriez pas contre.
Vous l'appelez comme
ça. Non, mais vous ne seriez pas contre.
Ah, mais écoutez, ce sera un vote. On votera. On peut voter comme on veut, Michel.
J'essaie de comprendre le problème.
Le problème, lorsqu'il y a une place qui est nommée, une loi, c'est comme l'objet d'un arrêté. C'est tout aussi simple que ça.
Comme tout à l'heure, on parlait du rond-point de Besnard.
Madame la maire, il faudrait quand même un jour.
Voilà un sujet intéressant.
On disait, c'est vrai, monsieur Capot a raison, on disait le rond-point de Quinquin.
Quinquin, je cherche.
Il n'y a jamais eu de rond-point
de Quinquin. Il n'y a jamais eu depuis longtemps.
Et on dit leur emploi des quatre chemins, non, c'est ça?
Il faut créer une commission.
Bon, il va falloir...
On va parler du troisième rond-point.
Un groupe de travail pour les ronds-points. Alors, effectivement, ne tournons pas en rond, mais abordons le troisième thème, rond-point de Girard. Alors, le collectif Girard, bon, comme vous le savez, vous êtes là, organisé une réunion publique le mercredi 29 mars à Prades, afin de présenter ces trois projets alternatifs. La métropole a organisé une réunion publique le mardi 4 avril en présentant le projet déjà connu et qui ne convient toujours pas à nombre de personnes, mais semble convenir aux élus présents ce jour-là. Toutes et tous étaient à la tribune avec le président de la Fosse et Madame Fraîche, vice-présidente, et aucun n'a manifesté sa désapprobation face au projet présenté par la métropole. D'ailleurs, lors des réunions publiques, Madame le maire, vous n'intervenez jamais aussi peu, ce qui est forcément préjudiciable à la commune, puisque vous ne portez pas la voix des Montferrains. D'autres réunions de présentation de ce projet Girac, à l'initiative de la métropole, avaient déjà eu lieu dans chaque commune, et lors de chacune de ces réunions, nous en avons appris un peu plus sur le projet imposé le 4 avril. Madame le maire, certes, nous avons voté une motion contre ce projet en conseil municipal le 12 décembre 2022, mais cela, à mon avis, n'est pas suffisant. Nous vous demandons d'organiser rapidement, si c'est possible, une réunion publique sur Montferrier ou de Vézou pour les habitants de la commune seulement. Ce sujet important et vital pour l'avenir de notre commune doit être clarifié et débattu. Il pose également de manière implicite la question du rôle de conseiller communautaire que vous êtes, et même de conseillère déléguée que vous êtes, seule représentante de la commune et des habitants de Montferrier au sein de la métropole. Merci.
Pourquoi voulez-vous une réunion publique avec les administrés de Montferrier? Il y a eu 300 personnes à la réunion à Clapiers. Tout le monde a pu poser toutes les questions voulues. On n'en a pas beaucoup entendu, d'ailleurs. Il y a eu le représentant du collectif, 4-5 personnes, des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Mais je n'ai pas vu beaucoup d'administrés montferriérains, donc j'ai supposé que ça ne les intéressait pas. Parce que moi, j'étais, comme vous le disiez, en tribune, et j'avais la salle face à moi. Et vous comprenez bien que pendant le discours de M. Delafosse et de Mme Julie Fraîche, j'ai eu le temps de regarder toutes les personnes présentes dans la salle. Je n'ai pas vu beaucoup de Montferriérains, beaucoup. Donc je me dis que finalement, quelque part, les Montferriérains avaient déjà toutes les informations, puisqu'il y a eu une réunion à Montferrier, une réunion à Prades, une réunion à Clapiers, deux réunions du collectif. Si je ne me trompe pas, deux réunions du collectif. Le collectif a été reçu à la métropole et a fait redescendre. Les membres du collectif ont été reçus à la métropole et ont fait redescendre au collectif tout ce qui a été dit à la métropole. Il y a eu la réunion publique à Clapiers. Donc je pense que toutes les informations ont été données. Je ne vois pas ce qu'apporterait une réunion supplémentaire à Montferrier. Qu'est-ce qu'on apporterait comme information supplémentaire? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire aux Montferriérains de plus que tout ce qui a été dit à la réunion à Clapiers?
Plusieurs éléments de réponse. La première, c'est qu'à Clapiers, nombre de personnes sont venues et ne sont pas restées. La salle était comble, des personnes n'ont pas pu rentrer, certaines n'ont pas pu se garer, elles m'ont dit, venant de Montferrier, je vous l'assure. Et donc sont parties. Donc c'est vrai qu'une bonne partie des gens qui auraient pu assister à la réunion n'ont pas assisté.
Moi, j'ai reconnu quelques Montferriérains qui, à Montferrier, prennent la parole et sont contre Girac et qui, là, n'ont pas parlé. Alors que c'était le moment d'interpeller le président ou d'interpeller Mme Fraîche. C'était le moment. On avait la chance d'avoir le président ce jour-là. Personne ne lui a posé de questions au président. Enfin, personne. Trois personnes lui ont... Trois sur 300. Donc, les questions même que j'ai entendues m'ont dépité. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Les gens sont contre Girac et les questions qui sont posées ne sont pas des questions aussi intéressantes que ça sur le rond-point de Girac.
Justement, la plupart des questions, je me suis également interrogé, parce que la plupart des questions, c'était pour demander des précisions sur ce projet.
Mais les précisions...
paraissait paradoxal, puisque ce projet... On est censé faire, on a appris à le connaître au fur et à mesure, il faut bien le dire, parce qu'au départ, on ne le savait pas, puis on a su, puis au fil des réunions, que ce soit à Montferrier d'abord, à Prades et à Clapiers, enfin, on a appris un peu plus chaque fois.
On n'a pas appris grand-chose. Monsieur Bord, on n'a pas appris grand-chose de plus. à cette réunion. Franchement, on n'a pas appris grand-chose de plus.
À Clapier.
À cette réunion publique, non. Tout ce qui a été dit, on le connaissait.
Non, mais ce que je vous dis, c'est que lors des réunions précédentes qui avaient été organisées dans chacune des communes, c'est là où on a réussi à en apprendre un peu plus chaque fois. Parce que la métropole,
c'est l'objectif des réunions d'information.
Un peu plus d'information. Je pense que même sur Montferry, qui sera la commune certainement la plus impactée, c'est évident. C'est la commune la plus impactée, parce que Prague, est quand même beaucoup plus loin, et Clapier n'a pas les mêmes problématiques que nous. Donc tous les gens qui descendent du nord vont passer sur Montferry. Alors quand on nous dit qu'ils vont passer par le lien, ça débouche sur la route de Ganges, mais la route de Ganges, quand on voit le trafic qu'il y a le matin, il faut voir le trafic.
Donc qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter à cette réunion publique?
Ça, on pourrait faire le point dans cette réunion sur ce projet et voir où en sont les habitants et véritablement qu'est-ce qu'ils veulent. Et donc porter, un peu ces cahiers de doléances au président de la métropole et à la vice-présidente surtout. Parce qu'alors, ça paraît quand même incroyable, moi je le dis, ça paraît incroyable, que pour deux détours, l'un par Europolis et l'autre par l'Europol de Fesco, on n'arrive pas à trouver une solution. Ça me paraît... on dit, mais c'est pas possible, quoi. Entre gens intelligents, entre gens qui ont fait des études, entre gens qui veulent que tout se passe le mieux possible, comment n'arrive-t-on pas à quelque chose qui ne nous mette pas dans l'embarras comme cela va l'être à fort
obligatoirement sur la route. J'ai eu l'occasion d'entendre des riverains de la route de Mende dire qu'ils n'étaient pas du tout contre le fait qu'il y ait une circulation qui augmente route de Mende. Et que contraindre, comme on aimerait le faire et qu'on en travaille dans les groupes sur les mobilités, leur paraît déplacé. Au contraire, plus c'est fluide, plus les gens passeront, plus facilement, et donc ça roulera. Donc vous voyez qu'on n'arrivera jamais à être tous d'accord. Sachant qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde le sait autour de cette table, le collectif a déposé un recours contre Girac. Donc il y a un recours qui démarre. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle va être l'attitude de la métropole? On verra, on va voir. Donc moi j'attends la réponse de la métropole au recours. Est-ce qu'elle va écouter et elle va couper court à ce recours et dire bon ben on va trouver une solution rapide, etc. Ou est-ce qu'elle va laisser courir le recours? Sachant que si elle laisse courir le recours, la seule chose qui risque de se poser, c'est que le tram n'arrivera peut-être jamais à Montferrié, s'arrêtera peut-être au CIRAD, ou arrivera à Montferrié et ne traversera jamais le Lez. Bon, ça ravira M. Chrétien. Donc, il n'espère qu'une seule chose, c'est que le recours soit gagné.
Parce que dans ce qui est dit, et pas dit aujourd'hui, il y aura des embouteillages, c'est sûr. Le rond-point, le fameux rond-point Lunette que propose la Propolis, il faut savoir qu'également, en plus du rond-point Lunette, il va y avoir des feux.
Mais pas sur le rond-point.
Ah, mais les feux sont obligatoires. Le tramway traverse le rond-point, les feux, il y aura des feux pour aller sur la D65. C'est obligatoire. Ah non, tu ne peux pas dire qu'il ne va pas y avoir de feux.
Oui, sur la D65, il y aura des feux.
Comme au rond-point du Château d'Eau, c'est obligatoire qu'il y ait des feux. Et le fait qu'il y ait des feux va bien sûr gêner la circulation.
Moi, je pense qu'en tant que commune, on a fait beaucoup. On est d'ailleurs la seule commune à avoir fait autant contre Girac. La métropole en est complètement consciente, parce que vous dites que bon, je n'ai aucun rôle à la métropole, que j'étais assise en tribune et que donc je validais.
Mais vous n'avez rien dit.
Mais je n'ai rien dit, monsieur Bord. Pourquoi je n'ai rien dit? Parce que depuis le début, je suis persuadée que nous nous battons contre un énorme mur. Nous allons dans un énorme mur et que nous ne gagnerons jamais.
Oui,
donc, toute cette énergie... Non, je ne suis pas la seule.
Et vous pouvoir parler. Parce que madame Bord est vice-présidente, monsieur Pinceau est vice-président, ils sont dans le bureau de la métropole. Donc, bien sûr, ils sont plus pieds et poings liés. S'ils sont contre la métropole, seule solution, c'est de démissionner. À la limite.
Mais j'ai parlé à monsieur Delafosse. Je lui ai même écrit un courrier au nom de la commune. Et à monsieur Delafosse, plusieurs fois, je lui en ai parlé. Son objectif, c'est de faire sortir la ligne 5 pour 2025. C'est son objectif. Donc, Madame de Voissel, elle aura beau dire tout ce qu'elle veut, contrer, expliquer, je me fais même moquer en me disant, mais Madame le maire, 200 voitures de plus vous ennuient ? Alors que Monsieur le maire de Jacou me dit, moi j'ai 10 000 véhicules jour qui traversent mon village. Mais tu me fais rire.
Non, mais il y a une réponse à ça. D'abord, lui, quand il est arrivé, il a subi cette situation qui existait déjà. Quand il dit « traverse mon village », c'est pas vrai. Il passe sur la route de Téran. C'est pas tout à fait la même chose que de traverser le village, d'accord ? En plus, c'est lui qui a fait l'urbanisme de sa commune. Personne n'a obligé à mettre tous les magasins à 100 mètres des maisons anciennes de son village. D'accord ? Personne ne l'a obligé. Donc, il l'a un peu cherché aussi. Nous, le problème qu'il y a, c'est que c'est quelque chose que l'on risque de subir, qui n'est pas encore acquis, mais qui risque de l'être, cette chose-là, on risque de l'avoir. Et le truc des... C'est vrai que lors de cette réunion à Clapier, je me suis posé la question quand même, parce que j'ai bien écouté ce que disait Julie Fraîche. Elle parlait des 4%, d'accord ? Les 4% de véhicules qui finalement sont concernés par le fait d'aller de Prades à Clapier. Moi, quand je vais à Clapier, quand je vais en cette route-là, je me mets toujours sur le côté gauche parce que je sais que jamais je vais avoir un véhicule qui va me couper la route et m'empêcher de rentrer dans le rond-point. Pareil, quand je viens de Clapier, j'ai jamais personne qui va m'empêcher de rentrer dans le rond-point parce que personne ne va sur Prades. Mais je ne prends pas cette route-là dans les 2 heures le matin et les 2 heures le soir où il y a le plus de monde. Parce que là, ça change tout. Parce que quand tu dis 4%, évidemment, si tu le divises par 24 heures, ça fait rien comme bagnole. Mais 4%, si tu les prends sur 2 heures le matin et 2 heures le soir, 4% de combien la vie de véhicules qui passent par là, c'est énorme. 4%, ça fait tout un coup notre chiffre. Et à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut se battre. Sur ces 4%-là, qu'elle minimise alors qu'elle n'est pas à les minimiser. Parce qu'ils sont là sur une période très courte. C'est ces 4% qui m'ont fait un peu réfléchir quand elle en a parlé. Puis après, évidemment, j'ai réfléchi à la chose, j'en ai parlé à d'autres et je me suis rendu compte que ces 4%, c'était un piège.
Ce qui a été vraiment mal vécu, c'est que Julie Fraîche ait rejeté dans mon verre de mer les 3 propositions qui avaient été approfondies et données, disons, à la métropole, de manière sérieuse, quoi. Moi, je sais que notre ami Jean-Marie Neussec a travaillé dessus avec des ingénieurs, avec des gens qui sont de la partie. J'ai la connaissance.